10h. Le grand témoin, Louis Dauphren.
Le César du meilleur film est attribué à Des hommes et des dieux, produit par Pascal Cousteau, Grégoire Salon.
Et oui, on y était vendredi soir, Des hommes et des dieux, bien sûr, récompensé, je dis bien sûr, parce que, évidemment, il fallait s'y attendre. 11 nominations, finalement, 3 Césars à l'arrivée pour en parler ce matin du film, de l'arrière-plan du film aussi, évidemment, parce qu'on ne va pas s'arrêter à cette cérémonie à laquelle vous n'étiez pas, Henri Quinson. Bonjour, Henri Quinson.
Bonjour, j'étais invité, mais j'étais au Canada pour défendre le film.
Voilà, on en parlait aussi beaucoup au Canada.
Ah oui, énormément. J'ai pu participer à la plus grosse émission canadienne qui, tout le monde en parle, une version un peu plus civilisée de cette émission qui, en France, me plaisait pas beaucoup.
Alors vous avez publié Secret des hommes, Secret des dieux aux presses de la Renaissance, donc c'est l'arrière-plan, tout ce que l'on veut savoir sur le film, qu'on ne sait pas comme ça immédiatement si on veut décrypter les choses telles qu'elles se sont passées. Vous êtes conseiller monastique de ce film Des hommes et des dieux, c'est un rôle et un titre d'ailleurs un petit peu curieux, conseiller monastique, c'est vrai?
Je suis l'unique conseiller monastique de l'histoire du cinéma, donc effectivement c'est original, mais l'originalité me plaît très bien, tout à fait. Non mais je crois que ce film c'était très important, si vous voulez, beaucoup de gens se posent la question du succès du film. Il faut bien comprendre que le film déjà, le scénario proposé par Étienne Comard contenait énormément de textes et de dialogues des frères, et que à peu près 30% du texte c'est des propositions que j'ai faites à Xavier Beauvois, donc on discute souvent du fait que Xavier Beauvois est agnostique, etc., etc. Il faut bien comprendre que les frères de Tibérine sont évidemment dans ce film, et c'est surtout eux, je pense, qui sont le secret du rayonnement de ce film.
Secret des hommes, secret des hommes et des dieux, Dieu est au pluriel.
Oui, c'est Xavier Beauvois qui souhaitait ce titre, je le trouve intéressant, il a posé pas mal de problèmes aux familles, et j'ai eu des réactions au départ assez négatives. Je l'ai un peu corrigé en proposant donc en exergue du film le psaume, un verset du psaume 81-82, hein. Je lui dis, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, pourtant vous mourrez comme des hommes, comme des princes, tous vous tomberez. Donc Jésus lui-même, dans l'évangile selon saint Jean, fait référence à ce verset pour expliquer la question de la divinisation. Alors ça Jésus, vrai homme, vrai Dieu, mais nous aussi, nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Et donc, comme l'ont dit les pères de l'Église, saint Irénée et d'autres, notre vocation c'est de devenir Dieu par participation. Et donc d'une certaine manière, nous assistons dans ce film à la divinisation des frères, et aussi des villageois dans la mesure où ils accueillent le royaume de Dieu. Et c'est un des thèmes du film, mais c'est aussi la diversité des représentations de Dieu. J'ai tout un chapitre dans mon livre sur ce titre, mais ça me paraît très important de ne pas tomber dans la naïveté de croire que tout simplement parce qu'on dit nous avons qu'un seul Dieu, tout est réglé. Non, en réalité, nous avons tous des représentations de Dieu, même à l'intérieur des christianismes. Nous avons souvent des représentations de Dieu différentes, qui sont parfois complémentaires, mais aussi parfois conflictuelles. Et je crois que l'intérêt du film, c'est de donner raison de cette complexité que nous voyons d'ailleurs à l'œuvre en ce moment dans la région.
Alors, Xavier Beauvois, bien sûr, réalisateur du film. On a, Henri Quinson, un certain nombre de personnes à écouter tout au long de cet entretien jusqu'à 8h30. Je vous propose d'écouter Michael Lonsdal, bien sûr, qui est meilleur second rôle. C'est le César qu'il a obtenu vendredi soir. Caroline Champetier, directrice de la photographie, qui sera également avec nous. On va écouter sa réaction parce que ça a aussi compté. Vous connaissez évidemment tout ce petit monde. Je précise pour ceux qui nous écouteront jusqu'à 10h, entre 9h et 10h, La Voix est libre sera consacrée également à Des hommes et des dieux avec Emmanuel Audrin qui a fait le documentaire qui a servi d'inspiration au film, puisque vous avez parlé d'Étienne Comard, une personne qui n'est pas forcément connue du grand public mais qui a fait le lien en fait hein, dans
Absolument.
Toute cette chaîne. Vous pouvez expliquer en deux mots?
Bah oui, Étienne Comard donc est co-scénariste et co-producteur du film. C'est lui qui, à Cannes, en 2006, a vu, alors qu'il dormait pas très bien, le documentaire d'Emmanuel Audrin, que je connais bien, qui est un ami. Et ce documentaire a déclenché chez lui l'idée de ce film. Et après, il est allé lire des informations dans le livre de John Kaiser, qui est un Américain et dont j'ai traduit le livre sur les moines de Tibérine. Et c'est ainsi que nous avons travaillé ensemble sur le scénario, puisque c'était un de mes contrats sur le film, et puis après, avec Xavier Beauvois et toute l'équipe des acteurs, sur l'ensemble du film, et notamment les 2 mois de tournage au Maroc. Et donc, Emmanuel Audrin a servi de déclic du côté d'Étienne Comard pour faire ce film.
On en parlera entre 9h et 10h pour ceux qui écoutent l'antenne à Paris. La Voix est libre, bien sûr, ce matin avec Emmanuel Audrin. Le grand témoin, c'est avec vous, Henri Quinson. On va revoir votre itinéraire aussi, votre rôle dans ce film. Peut-être une première réaction, elle est celle de notre critique cinéma, Bernard Médioni, qui était avec nous vendredi soir au César. À l'énoncé de la sentence, la réaction de Bernard Médioni, qui ne s'attendait pas à ce choix au vu du déroulement de la soirée, et il le dit justement, c'est juste après que Jodie Foster eut prononcé le nom du vainqueur.
Moi j'attendais vraiment le film de Polanski, The Ghostwriter, et finalement ça a été Des Hommes et des Dieux, donc on peut au moins souligner l'exigence de variété et peut-être d'équité des jurés qui ont récompensé Gainsbourg Viroi, qui ont récompensé Ghostwriter, qui ont récompensé un petit peu Des Hommes et des Dieux. Personne n'a été laissé pour compte hormis Mammouth et l'arnaqueur et Tourné. Et ça c'est intéressant, cette répartition, il n'y a pas eu un monopole, parfois justifié comme pour le dernier métro, mais là c'est vrai qu'il y a eu une volonté de répartir les suffrages. Et bon, je pense que c'est vrai que pour les gens qui ont contribué au film comme Michael Lonsdale ou Jacques Herlin ou Olivier Rabourdin, ils doivent vraiment se réjouir de cette récompense suprême in fine, et je continue de le dire, surprenante, parce qu'un petit peu à contrario de l'évolution de la soirée, rappelons sur un plan historique que c'est le deuxième film entre guillemets religieux à obtenir le César du meilleur film après Thérèse d'Alain Cavalier, qu'il avait reçu en 1987, et qui d'ailleurs partage à la fois, je trouve, les mêmes qualités et les mêmes défauts du film.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire un film fort bien joué, fort bien réalisé, et c'est-à-dire aussi un film qui a des problèmes de rythme et qui pêche par une certaine austérité, mais on retrouve aussi une certaine exigence esthétique et de ne pas se conformer à des attentes ou populaires ou commerciales.
Voilà, les mêmes atouts, les mêmes faiblesses, l'avis de Bernard Médioni, notre critique cinéma. Depuis 1987, c'était le seul film qui a reçu donc une récompense dans ce registre-là, Henri Quinson.
J'ai trouvé que le commentaire était assez juste. J'ai trouvé personnellement que les jurés sur l'ensemble des films a été très juste, et concernant le film, très juste aussi. La manière de récompenser, pour moi, c'était surtout un gros travail d'équipe, si vous voulez. Donc je pense que meilleur film de l'année, je pense que c'est la récompense qui convient le mieux, parce que elle permet aussi de récompenser le travail collectif des acteurs. Je trouve ça un peu dommage d'avoir des distinctions qui singularisent tel ou tel acteur, même si je me réjouis évidemment du César pour Michael Lonsdale, dont je préface le prochain livre sur la prière. C'est intéressant parce que c'est quand même avec moi le chrétien le plus engagé de l'équipe, et on voit qu'il y a quand même une certaine logique dans cette distribution des prix.
Mais qu'est-ce qu'on récompense en fait, Henri Quinson? Les 3 200 000 entrées, c'est juste une récompense statistique? Ou ça
Alors,
va au-delà?
Non, je pense que ça va au-delà. Si vous voulez, au départ, bon, moi, ça m'amuse parce que, comme je raconte dans mon livre, j'avais proposé ce film à le plus grand producteur de films européens. Il trouvait que cette moine qui allait se faire assassiner à la fin, c'était pas vendeur, donc il a pas voulu faire ce film. Finalement, c'est Why Not Productions et puis Armada Film qui font plutôt des films d'art et d'essai, comme on dit, des films d'auteur. Et on s'aperçoit que ça a été à la fois un succès critique unanime, je veux dire de l'Humanité jusqu'au Figaro, et en même temps un succès populaire, puisque 3,2 millions d'entrées sur un tel film, qui effectivement a des côtés un peu austères, sobres, c'est à mon avis un tour de force. Donc la récompense, je pense, ça a été la réponse, à mes yeux, vu de l'intérieur, d'une grande intégrité par rapport au sujet. Et je crois que si Xavier Beauvois, qui a été un peu le chef d'orchestre de ce film, comme réalisateur, a su rendre compte de l'esprit des frères, c'est parce qu'il s'est mis à l'écoute de son film et à l'écoute des frères, et lui-même, quelles que soient ses positions théologiques, a toujours dit qu'il était tombé amoureux des frères, et je crois que c'est vrai, et toute l'équipe a été saisie par ce sujet, et de ce point de vue-là, je crois que c'est des grands professionnels. Caroline Champetier à la photographie, c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui a vraiment, je l'ai vu de l'intérieur, vraiment porter ce film, donc c'est justice. Et je crois que le secret du film, fondamentalement, c'est de s'être ouvert avec beaucoup d'intégrité à cette histoire, en recevant les frères, et donc en recevant les frères, en recevant celui qui constituait évidemment l'appel de leur existence.
Alors il a fallu, vous l'écrivez d'ailleurs, qu'ils deviennent frères.
Ouais, c'est ça qui a été très...
C'est pas si facile.
Exactement. On peut jouer, on peut interpréter, mais tous les acteurs, finalement, sont arrivés à une conclusion avec Xavier Beauvois, le réalisateur, qu'il s'agissait d'être ses frères. Il ne s'agissait pas d'imiter de manière un peu servile. Par exemple, je donne des exemples très précis dans mon livre, mais les lunettes de Christian de Chergé, qui sont assez épaisses, on n'a pas souhaité prendre ce modèle-là pour faire quelque chose à l'identique, parce qu'il aurait mangé un peu le visage de Lambert Wilson et on aurait perdu en expressivité. Et l'objectif du film, c'était vraiment de filmer l'âme de Lambert Wilson, qui doit refléter l'âme de Christian de Chergé. Donc c'était un film assez ambitieux.
Et là,
ambitieux.
Qui décide ? C'est vous qui dites justement « Ah non, les lunettes, ça ne va pas » ou alors c'est un autre membre de l'équipe qui se prononce et qui est décisionnaire là-dessus ?
Alors moi, dans mon rôle de conseiller, si vous voulez, j'étais consulté sur absolument tout. Et évidemment, la décision finale revient à Xavier Beauvois, qui est le patron de cette affaire comme réalisateur. Pour ce qui est des questions liturgiques, par exemple, 15% des textes du film, finalement, sont des chants. Bon, c'est moi qui ai choisi le répertoire liturgique, mais je le propose à Xavier Beauvois et c'est lui qui valide. Donc, il peut me dire, ah bah, tel psaume, non, je préférais peut-être autre chose.
Et il l'a fait d'ailleurs?
Ah, bah oui, si vous voulez, quand il y avait marqué les moines pris à 13 reprises dans le scénario, on se tournait vers moi et on disait, voilà, comment sont-ils habillés? Quels gestes font-ils? Que vont-ils chanter ou dire? Et donc Xavier me disait, c'est pour ça, là, à ce moment-là, c'est moi qui place les caméras, mais c'est toi qui dois organiser cette chorégraphie pour laquelle je n'ai pas de compétences particulières. Et pour ce film, et c'est une des grandes originalités de ce film, même par rapport au Thérèse dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une place de la liturgie extrêmement importante, et à mes yeux, donner la possibilité à travers le cinéma à 3 millions et quelques de personnes de participer à une mini-retraite dans un monastère, c'est un tour de force, c'est quelque chose qui donne à penser dans la société d'aujourd'hui.
Mais cette place de la liturgie, c'était un choix du départ dans l'esprit de Xavier Beauvois, ou bien c'est venu à la lumière de conseils que vous lui avez donnés? Vous lui avez dit, par exemple, écoute, si on filme des moines, il faut qu'on les voit dans leur vie. Moi qui ai passé 5 ans à l'abbaye de Tamier.
Alors c'est très délicat de répondre à cette question, parce que les gens pourraient croire que telle personne tire sa couverture à lui, mais si vous voulez, la réalité, c'est quand j'ai hérité du scénario, on m'a demandé de corriger des erreurs historiques, mais on m'a demandé aussi une contribution positive, et la contribution positive pour ce qui me concerne sur ce sujet, c'est de dire les moines chantent 7 fois par jour, 4 heures par jour, ce film doit être silencieux, et une manière de communiquer avec le spectateur, c'est de lui donner des clés de lecture à travers ses chants. Et Xavier Beauvois s'est vraiment emparé de cette idée, il a fait sienne, et donc au final on a une importance très 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 grande de la liturgie, alors qu'au départ ça aurait pu être de la décoration de 30 secondes, lui a choisi d'en faire une thématique centrale. Un sixième finalement du film, c'est très proche des chœurs dans les tragédies grecques, et il y a là un fonctionnement qui donne un certain classicisme à ce film, et qui à mon avis sur le plan artistique aussi, lui donne sa note particulière et assez forte.
Une rythmique, ça compte dans le déroulement du temps.
Absolument, et ça donne une intériorité à l'ensemble de l'œuvre.
Henri Quinson qui est avec nous jusqu'à 8h30 ce matin, conseiller monastique du film Des Hommes et des Dieux. Secret des Hommes, Secret des Dieux, c'est aux éditions Presse de la Renaissance. On va écouter Michael Lonsdale, on l'a rencontré juste après. La récompense qu'il a obtenue vendredi soir, César du meilleur second rôle. Michael Lonsdale qui s'est exclamé, on l'écoutera sur scène aussi à 8h26. Te voilà petit coquin en parlant du César, mieux vaut tard que jamais Michael.
Oh bah oui, parce que j'ai frôlé deux ou trois fois des prix, mais ça ne s'est pas fait, le film de sauter. Mais je ne suis pas habitué aux prix, parce que j'en ai jamais reçu dans ma vie.
Vous aviez reçu le BAFTA du meilleur second rôle masculin en Angleterre en 73 pour Chacal de Fred Zinman. Ouais. Et comment réagissez-vous quand on remarque que le cinéma français vous récompense 28 ans après l'Angleterre?
Ils sont un peu lents. Non, mais c'est pas importantissime, je veux dire, c'est bien, c'est agréable. Voilà, mais il ne faut pas en faire un... C'est pas le but de la vie d'avoir un César, voilà. Ça vous flatte. On se regarde en disant, bah ouais, t'as pas trop mal, quoi, finalement.
Voilà, toujours modeste, Michael Lonsdale. 28 ans après, les Anglais, quand même une récompense pour cet acteur de grande envergure. Quelles étaient vos relations avec Michael Lonsdale? Est-ce que c'est l'acteur duquel on est forcément le plus proche dans le film? C'est un second rôle qu'il a obtenu. En même temps, ils ont tous un rôle important. Comment vous situez-vous par rapport à... à cette hiérarchie de du film?
Ben, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, moi, j'ai vécu vraiment un an avec ce film et deux mois où j'étais au petit déjeuner, dîner avec les acteurs. Les acteurs sont devenus des amis. Certains d'entre eux m'appellent toutes les semaines. Enfin, donc, c'est très difficile pour moi de hiérarchiser. Ce que je peux dire avec Michael, avec qui je dînais il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé de préfacer son prochain livre sur la prière, c'est que c'est quand même le seul acteur avec lequel on priait aussi ensemble pendant le tournage. Même si nous sommes allés à une Eucharistie aussi avec Lambert Wilson, qui a été baptisé par l'abbé Pierre. On a eu des rapports très très forts avec tous les acteurs. Michael, ce qui est particulier, c'est que il avait une certaine connaissance précise aussi de la liturgie. Et donc, quelquefois, il venait me faire des observations et je lui disais que je n'avais jamais été moine cistercien et que ce qui se passait peut-être au renouveau charismatique n'était pas forcément le même dans un monastère trappiste, mais c'était la seule personne avec qui je pouvais avoir ce genre de débat sur des détails de rubriques liturgiques qui étaient très importantes, évidemment, pour le caractère réaliste du film. Mais plus profondément, ce qui m'a beaucoup plu avec Michael, c'est que mon frère favori, entre guillemets, dans cette histoire des moines de Tiburine, c'est quand même Luc, pour des tas de raisons, et que c'était aussi le cas de Xavier Beauvois. Donc on lui a taillé un rôle que nous jugions extrêmement important et pour lequel nous avions beaucoup de sympathie, et qu'il a joué avec des qualités d'acteur absolument extraordinaires, et en ayant une intelligence très profonde, spirituelle, de ce rôle de frère Luc.
Michael nous parlera de frère Luc à tout à l'heure, aux alentours de 8h20, frère Luc qui l'interprète. Tous les autres acteurs en soi se connaissaient-ils d'ailleurs avant le film?
Alors tous ne se connaissaient pas, je dirais que la majorité se connaissait quand même, mais pas tous. Et si vous voulez, ce qui a été très très important, et ce qui a été dit notamment par Lambert Wilson, mais d'autres, c'est qu'il y a eu un rôle fédérateur du chant en particulier. Donc une fois que j'ai choisi il y avait disons 6 hymnes et 6 psaumes à apprendre, qu'ils ont appris avec François Polgar, qui est l'ancien chef de chœur de l'Opéra de Paris, qui est quelqu'un d'absolument remarquable par sa pédagogie et qui a évidemment toutes les compétences musicales, qui a fait un travail remarquable à Paris. Les acteurs sont devenus vraiment une communauté, grâce au chant qui a été fédérateur, et puis ils ont aussi été très marqués par les quelques jours passés au monastère de Tamier, puisqu'on m'avait demandé aussi de les emmener dans un monastère, un peu pour voler ces images qu'ils voyaient devant eux, mais aussi je voulais les faire rencontrer des vrais moines à l'abbaye de Tamier, et ils ont été très très marqués par l'humanité justement de ces moines, et je crois qu'à l'arrivée ça fait un film de ce point de vue-là, non seulement réaliste, mais très très spirituel, très profond.
Et à Tamier, qu'en est-il ressorti? Est-ce qu'ils sont sortis différents de Tamier du moment où ils y étaient entrés?
Je dis beaucoup de choses dans mon livre, Secret des hommes, secret des dieux, mais je peux pas tout dire parce que si vous voulez, j'ai aussi des relations très personnelles avec chacun et je ne veux pas trahir des discussions trop profondes. Ce que je peux simplement dire, c'est que certains acteurs sont retournés à Tamier à titre personnel, ce qui en soi déjà en dit long. Et puis que, comme je le dis dans mon livre, par exemple, quelqu'un comme Lambert Wilson, après 3 jours là-bas, je le revois quittant le monastère et sur les marches de l'hôtellerie, me disant, mais c'est quand même incroyable, ces frères qui font vœu de rester toujours au même endroit, moi qui parcours le monde, ça me donne le vertige.
On ne peut guère imaginer vie plus opposée.
Exactement, et c'était une des difficultés, si vous voulez, quand j'ai préparé la rencontre de ces deux univers, c'était de faire en sorte que ça se passe bien, parce que c'est vrai que les acteurs, eux, sont plutôt dans la représentation, et donc toujours dans ce contact très fort avec le monde extérieur, en grand nombre, et puis le monastère est plutôt dans une logique d'intériorité et de retrait du monde, même si à Tamier, il y a 120 000 visiteurs par an, donc faut pas non plus caricaturer la vocation des uns et des autres, mais cette rencontre était très importante, et a marqué très profondément les acteurs. Un des acteurs aussi, pour vous donner une autre anecdote, lisait mon livre et au bout de 25 pages m'a appelé en disant « Je n'arrive pas à continuer tellement je suis ému, parce que je me suis pas vraiment remis encore de ce film. » Voilà.
Et du côté des moines, Henri Quinson, est-ce que ça a été difficile cette rencontre en deux mots? Avec le monde du cinéma, voilà. De Tamier, du côté de Tamier d'où vous venez.
Alors, comme je le raconte dans mon livre, c'était très compliqué pour moi. Un de mes rôles était un rôle un peu de diplomatie entre les familles, les monastères et puis ce film. Par exemple, aucun monastère ne voulait prêter une coule monastique, ce vêtement liturgique pour le film, parce que la costumière Marielle Robot appelait et disait, voilà, on va faire un film sur les moines de Tiburine, est-ce que vous pourriez nous prêter une coule? Ils étaient un peu effrayés. Voilà. Bon, quand ça passait par moi, comme j'étais connu, ça allait. Et donc, je crois que la communauté de Tamier, il y avait deux frères qui connaissaient bien frère Christophe, qui étaient un peu réticents, mais très rapidement ils ont compris que c'était pas du Hollywood bête et méchant qu'on faisait, mais autre chose.
Vous restez avec nous, Henri Quinson, jusqu'à 8h30, spécial des hommes et des dieux. Avec vous, Henri Quinson, conseiller monastique du film Secret des hommes, secret des dieux aux presses de la Renaissance.
Nous fêtons aujourd'hui la fête du bienheureux Daniel Brottier. Il est très cher au cœur des Parisiens puisqu'il a été le directeur de l'œuvre des orphelins d'Auteuil. Cette œuvre qui avait été fondée par l'abbé Roussel en 1866 pour justement les orphelins. Et il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 25 novembre 1984. Et il a écrit des maximes sur la façon de se comporter, d'agir, de vivre finalement dans la charité. Tant que nous pourrons dire à Dieu, j'ai accueilli ces enfants en difficulté par amour pour vous, aidez-moi maintenant à les élever, soyez certains que la Providence interviendra. Servir, c'est n'être plus soi, c'est n'être plus à soi, c'est n'avoir presque pas le droit, c'est n'avoir que des devoirs. C'est ne point reconnaître son intérêt propre. C'est en tout cas le sacrifier toujours à l'intérêt général. C'est vivre et parfois mourir pour le bonheur de tous dans l'amour de Dieu. Merci, Père Brottier, de votre témoignage de charité auprès des plus démunis.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait grand bien. Alors Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. »
La lecture et le commentaire de l'évangile de ce jour sont assurés par le père Rémy Griveau, curé de la paroisse Saint-Germain de Charonne à Paris.
Cet homme vient interpeller Jésus comme on venait interpeller tout rabbi. Mais s'il part ainsi, tout triste, qu'est donc devenue cette bonté de Jésus-Christ ? Il n'y croit donc plus ? Mais tout à coup, il découvre combien il est attaché à ces choses qu'il a accumulées. Tellement attaché qu'il n'a pas vu le regard nouveau que le Christ lui adressait. Le Christ manifeste un attachement profond à cet homme, tandis que celui-ci est attaché à ses richesses qui l'aveuglent. Elle l'empêche même de voir le regard du Christ envers lui. « Quand vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur », dit le psaume 62, verset 11. Même le regard repérable pourtant du Christ, bien présent, et venu le sauver, ne lui est plus envisageable. Peu importerait ses biens qu'il entrave, peu importerait même qu'il soit englué dans cette entrave, qu'il s'agisse de biens matériels comme du savoir-faire ou des capacités intellectuelles ou culturelles et dont on pourrait tirer orgueil. Ce qui compte, c'est le Christ, avec qui on peut les vivre, les partager à nos frères. Ils deviennent des outils d'amitié, des témoignages de miséricorde, des occasions de partage. N'y mettez pas votre cœur, Votre soif n'y sera jamais rassasiée. L'amour partagé, oui. Un ami me disait récemment, ce ne sont pas les choses que nous faisons qui sont importantes, mais celui avec qui nous les faisons. Et c'est vrai, avec les hommes, encore plus avec Dieu. Si vos richesses s'accroissent, n'y mettez pas votre cœur, mais ouvrez-le en coopérant avec Jésus-Christ au bonheur de vos frères. Sinon, vous mourrez, même devant le regard le plus compatissant du Christ envers vous. Vous ne pourrez même plus le voir. Ce n'est pas facultatif, c'est vital.
Jusqu'à 8h30, Louis Dauphren.
En ce lundi 28 février, spécial des hommes et des dieux, c'est Henri Quinson qui nous accompagne comme grand témoin jusqu'à 8h30, conseiller monastique du film. Il publie « Secret des hommes, secret des dieux, l'aventure humaine et spirituelle du film ». On en parle ce matin avec Henri Quinson, puis bien sûr dans La Voie libre entre 9h et 10h avec Emmanuel Audrin qui est l'auteur du documentaire qui a inspiré le film. Les infos, 8h.
Pour une fois, ce n'est pas le secrétaire général de l'Élysée qui a annoncé le remaniement. Nicolas Sarkozy l'a annoncé lui-même hier soir à la télévision et à la radio. Michel Alliot-Marty est donc lâché par l'Élysée, poussé à la porte après la polémique autour de ses vacances en Tunisie. Elle cède la tête de la diplomatie française à Alain Juppé. Il est lui-même remplacé au ministère de la Défense par Gérard Longuet, jusqu'à présent chef des sénateurs UMP. Claude Guéant passe de l'Élysée à la place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Il remplace là-bas Brice Hortefeux qui quitte le gouvernement apparemment pour l'UMP. Nicolas Sarkozy a justifié ce remaniement par les changements de régime dans le monde arabe. Et puis deux avions français vont partir pour Benghazi, la deuxième ville de Libye, avec de l'aide humanitaire. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre François Fillon ce matin. 100 000 personnes, la plupart étrangères, continuent de fuir la Libye où la révolte court depuis maintenant 14 jours. Les protestataires s'organisent et progressent dans le pays. Un conseil national indépendant a été créé à Benghazi pour représenter les villes qu'il contrôle dorénavant, certaines à l'ouest de Tripoli. En Tunisie, le nouveau Premier ministre a 84 ans, un libéral, ancien compagnon de route du père de l'indépendance, Habib Bourguiba. Béji Saïd Essé Bzi prend les rênes du gouvernement de transition à la place de Mohamed Ranouchi, proche de l'ancien régime Ben Ali, qui a cédé à la pression de la rue. Au Yémen, le président Ali Abdallah Saleh, contesté lui aussi par la rue, affirme son intention de défendre le régime républicain, et cela jusqu'à la dernière goutte de son sang. À Bahreïn, des milliers de personnes ont défilé hier à Manama, la capitale, pour réclamer la chute du régime des Al-Khalifa. Le pouvoir a annoncé un remaniement ministériel que l'opposition a jugé insuffisant. Ban Ki-moon appelle ce matin à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Côte d'Ivoire. Des combats à l'arme lourde se déroulent à Abidjan. Là-bas, il n'est plus possible de recevoir la télévision publique RTI dirigée par le régime. C'est la conséquence de l'attaque du centre émetteur dans le quartier d'Abobo, réputé favorable à Alassane Ouattara. Les forces fidèles à Laurent Gbagbo ont affronté des insurgés armés. Alassane Ouattara qui est reconnu chef d'État par la communauté internationale. Un chrétien menacé pour ses croyances à Gaza, le directeur de l'hôpital anglican de Gaza, le chirurgien Maher Ayad, affirme qu'il avait été la cible d'un attentat à la bombe anti-chrétien vendredi dernier. La grenade n'a pas fait de victime. Il aurait reçu ce soir même un coup de téléphone anonyme qui le menaçait d'une action beaucoup plus grave s'il ne cessait pas de soi-disant activités missionnaires. Le don de cordon ombilical est un acte de solidarité humaine et chrétienne, déclaration de Benoît XVI qui met en garde contre la prolifération possible des banques privées. Le discours d'un grand gagnant des Oscars cette nuit à Los Angeles, Oscar du meilleur film, du meilleur acteur pour Colin Firth et du meilleur réalisateur pour Tom Hooper.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Radio Notre-Dame vous invite à suivre en direct les grandes célébrations dominicales. À 16h, retrouvez l'office de vêpres depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et à 18h30, la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le Seigneur soit
en union de prière avec des milliers de fidèles, les grandes célébrations du dimanche à 16h et 18h30 sur Radio Notre-Dame.
Le 4 mars, premier vendredi du mois, venez célébrer le cœur de Jésus et sa miséricorde à l'église Saint-Sulpice. À 18h45, messe, enseignement, adoration et procession du Saint-Sacrement. Venez louer et adorer le Seigneur avec nous ce vendredi 4 mars à l'église Saint-Sulpice à 18h45. Renseignements 01 45 03 17 60.
La perte de quelqu'un que l'on aime amène le chaos au sein de la famille. Il faut organiser les jours du dernier adieu. Comment les vivre pleinement dans l'espérance chrétienne pour faire de ce temps des funérailles un socle qui nourrisse la vie d'après? Né de la volonté de l'Église de Paris et présent à Versailles, le service catholique des funérailles a pour mission originale d'apporter un service complet de pompes funèbres, refusant toute surenchère commerciale.
Plus d'informations au 01 44 38 80 80.
Bonjour, je suis Camille, bénévole au Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Nous avons foi en un Dieu qui s'est fait homme et qui a mis sa confiance en l'humanité. Depuis 50 ans, la foi est au cœur de notre engagement aux côtés des plus pauvres. Pour plus de justice, fêtons tous ensemble cet anniversaire le samedi 5 mars à la basilique Saint-Denis pour une veillée de prière et le dimanche 6 mars à une messe à Notre-Dame de Paris. Pour en savoir plus sur ces deux célébrations et sur les 200 autres manifestations partout en France, rendez-vous sur ccfd-terresolidaire.org.
Le grand témoin, Louis Dauphren.
Le César du meilleur film est attribué à Des Hommes et des Dieux, produit par Pascal Cousteau, Grégoire Sanlo et Étienne Tourneur.
La belle voix de Jodie Foster, bien sûr, Des Hommes et des Dieux récompensés. On en parle ce matin avec Henri Quinson, conseiller monastique du film Secret des Hommes, Secret des Dieux, presse de la Renaissance. Henri Quinson, vous, l'ancien trader qui avait passé 5 ans à l'abbaye de Tamir entre 89 et 95, vous avez connu 4 des 7 moines assassinés. Aujourd'hui, vous enseignez dans les faubourgs de Marseille. Vous avez toujours été laïque, Henri Quinson, en fait, hein?
Oui, j'ai passé plus de 5 ans à l'abbaye de Tamir, mais je n'ai pas fait de vœu définitif. Quelquefois, les gens me posent la question. Donc, je suis très attaché à mon statut laïque, que je considère être un des traits caractéristiques du monachisme primitif. Mais j'ai un statut laïque et à ce titre, comme tous les moines, d'ailleurs, j'ai toujours travaillé, vécu de mon travail d'enseignant à Marseille.
Alors, un petit rappel quand même. Comment êtes-vous entré en contact avec le film? Qui vous connaissait pour que les choses se fassent?
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai traduit un livre d'un Américain, John Kaiser, Passion pour l'Algérie, Les Moines de Tibérine, qui a été publié en 2006 par les Nouvelles Cités. Et ma photo figure en quatrième de couverture, et Xavier Beauvois l'explique dans la préface à mon livre Secret des Hommes, Secret des Dieux. Il est rentré en contact avec moi parce que il consultait sans arrêt ce livre qui fait presque 500 pages pour le film, et il voulait un conseiller sur ce film parce qu'il s'est vite rendu compte que ce serait pas possible de filmer les moines en prière. Enfin, il avait beaucoup de questions en termes de mise en scène. Et voyant mon visage plutôt souriant, il s'est dit, voilà quelqu'un qui a l'air de me dire, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Et donc, il est entré en contact via Étienne Comard, le scénariste et coproducteur, avec moi. Et c'est vrai que tout de suite, on a très très bien accroché.
Donc c'est par le livre sur l'Algérie.
Et c'est par le livre sur l'Algérie.
On va en parler bien sûr de la situation dans les pays arabes, Henri Quinson, puisque vous avez un avis sur le sujet, vous connaissez bien ces pays-là. Je reviens quand même au César, parce qu'il y a eu 3 Césars. Donc, meilleur film, meilleur second rôle, Michael Lonsdale, qu'on va écouter à 8h20 et puis 8h25, puisqu'il y a eu quand même des petits événements au cours de cette soirée qui méritent d'être soulignés ce matin. Et puis, il y a Caroline Champetier, directrice de la photographie, qui nous dit qu'il fallait éviter 2 écueils dans ce film. On aura votre avis juste après.
Ce qui était en fait un petit peu difficile, c'était de ne pas tomber dans ce que peut être la peinture religieuse, c'est-à-dire quelque chose d'un peu iconique, d'un peu systématiquement esthétique. Donc il fallait, parce que c'était le propos de Xavier Beauvois, de rester au plus près de quelque chose qui était l'humanité de ces gens. Et à la fois, tout ce que j'avais devant les yeux était magnifique, quoi, les habits des moines, les décors. Donc il fallait être soucieux d'esthétique et en même temps que ce soit vivant. Donc, excessivement juste. C'est Xavier qui le met en scène. C'est vrai que l'immense confiance qu'il me fait qu'il y a des scènes sur lesquelles je peux m'avancer plus que d'autres. Alors, qu'est-ce que je peux raconter? Par exemple, la dernière scène. La dernière scène, on avait demandé aux moines d'avancer dans la neige et tout d'un coup, Michael a dit « j'en peux plus ». Et tout s'est arrêté. Et là, je me suis dit « si on n'arrive pas à tourner ça aujourd'hui, demain, il n'y aura peut-être plus de neige, il faut tourner ». Et j'ai fait cette chose un peu folle de prendre la caméra sur l'épaule, qui est une formidable caméra, Pénélope à Aton, que je peux prendre sur l'épaule. j'ai été voir Michael et je lui ai dit on va y aller, on va le faire. Et c'est à partir de là qu'on a pu faire tous ces mouvements des moines qui nous avancent dessus et que on n'aurait, je crois, pas pu faire si je n'avais pas dégagé quelque chose de l'ordre de l'humain pour l'amener à marcher, quoi. Voilà. Donc, quelquefois, c'est pas simplement quelque chose de technique, c'est d'être humainement avec les acteurs. Et la caméra sur l'épaule, c'est souvent d'ailleurs une chose qui est frappante. On se sent acteur parmi les acteurs.
Voilà, acteur parmi les acteurs. Caroline Champetier, César de la meilleure photo. Pas facile, nous dit-elle, hein, d'être excessivement juste. Parce que beaucoup de films sont récompensés aussi par les excès, par la débauche d'effets spéciaux. Et là il faut des effets, mais juste. Hein.
Caroline a un caractère très difficile. Elle est très exigeante. Et on m'est parfois rentré dans l'art parce que j'étais un mouche du coche. Mais j'ai une admiration sans borne pour son travail. Et par humilité, elle sous-estime son rôle. Son rôle a été extraordinaire. Elle a vraiment soutenu ce film de bout en bout. Et je ne dirai jamais assez mon admiration pour son travail, en particulier sur ce film, sur tous les films en général, ce film lui doit énormément, énormément, énormément. Donc son travail sur la photographie, qui est quand même de déterminer le cadre et de déterminer la lumière, bien sûr avec le réalisateur, mais compte tenu de son expérience en la matière et de son intelligence du film, je crois qu'elle a apporté énormément. Alors oui, je crois que ce film, justement, c'est beaucoup sur la justesse. Ce film était très très risqué, en fait. Hein. On aurait effectivement pu faire une espèce d'agiographie très esthétisante. Xavier Beauvois me disait toujours, voilà, s'il y a un fil électrique quelque part, il faut le montrer. Donc il fallait vraiment coller à la vie monastique aussi, dans sa pauvreté et sa simplicité, qui était celle de Tibirine. Et Caroline a très bien compris ça. En même temps, il s'agissait d'arbitrer ce combat entre les ténèbres et la lumière. C'est vraiment le thème du film, qui se termine par cet hymne magnifique « Ô Père des Lumières », qui a été chanté au Festival de Cannes dans la salle Louis Lumière. Et pour moi, c'est très important, comme je l'explique dans mon livre, puisque le propos au départ, quand j'en ai discuté avec Xavier Beauvois, mais aussi avec Caroline Champetier, c'était de transformer transformer de la lumière et puis de la projeter. Mais pour nous, il s'agit, dans une salle obscure, de faire advenir la lumière, un peu comme Saint Jean de la Croix parle de cette nuit obscure dans laquelle on fait la rencontre du Seigneur. Donc, vous voyez, la lumière, c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans le film, et Caroline a très très bien compris ça, sans tomber dans une espèce d'agiographie lourde qui n'aurait pas touché autant de spectateurs, notamment ceux qui ne fréquentent pas les églises. Et je crois que c'est très important, à travers ces films, de pouvoir rejoindre le grand nombre de ceux qui n'entrent pas dans nos églises.
Est-ce que le conseiller monastique avait des points sur lesquels il n'était pas d'accord avec le professionnel du cinéma ?
Si vous voulez, avec Caroline, par exemple, je pouvais lui dire, bon, ça vous arrange peut-être en termes de lumière de mettre un drap à sécher à tel endroit, mais dans un monastère, non, il n'y aurait pas un drap à cet endroit-là. Vous êtes le gars qui est embêtant, comme par exemple si j'arrive, ce qui était le cas le premier jour, et que je dis, voilà, la tunique de Lambert Wilson n'est pas assez longue, il faut qu'elle soit absolument dans l'instant rallongée. Bon, au costume, les gens sont pas très contents.
Vous êtes le commissaire politique, en fait. Hein.
Exactement. Donc, donc à ce moment-là, au début, les gens se disent, qui c'est ce gars-là ? Et puis, quand ils s'aperçoivent que je suis aux côtés de Xavier Beauvois tous les jours, et qu'en fait, à chaque fois, il faut mon aval, voilà, il y a aussi des enjeux. Mais comme me disaient les acteurs qui me soutenaient tout le temps quand il y avait des conflits, ils me disaient, mais Henri, c'est très important, parce qu'il faut vraiment que le film soit fidèle dans les détails et puis dans l'esprit aux moines. Donc c'était très important de tenir la barre sur ces questions-là. Mais je crois que le mérite vraiment de cette équipe, que ce soit Caroline ou Xavier et l'ensemble des acteurs, c'est d'avoir été extraordinairement réceptif. Quoi.
Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez le seul conseiller monastique de l'histoire du cinéma.
Oui, ouais. À ma connaissance.
Ouais. Donc, non, parce que vous avez dit que tout devait passer par vous à un moment.
Oui, je suis l'intersection, si vous voulez. Alors forcément, donc je suis en même temps toujours effacé, c'est un rôle d'ombre, hein, celui de conseiller, mais je suis toujours à l'intersection des frères que j'ai connus pour quatre d'entre eux, des familles à qui il a fallu que j'explique que ce film allait se faire, c'était très compliqué, de l'église au Maroc qui était assez hostile, frère Jean-Pierre, le survivant, qui a trouvé que ce film était un chef-d'œuvre, mais qui au départ, surtout en fait son supérieur Jean-Pierre Schumacher, avait aussi un peu peur de Jean-Pierre Flacher, pardon, avait peur un peu des effets que ça pouvait avoir sur l'église là-bas. Donc je suis à l'intersection, si vous voulez, de tout ça, et donc autant que Xavier Beauvois dit que ça a été deux mois fabuleux pour lui au Maroc, et moi aussi ça a été extraordinaire, mais en même temps il fallait porter cette charnière qui doit être une charnière de grâce, pour reprendre une expression de Madeleine Delbrel.
L'idée de tourner au Maroc,
Bah, le Maroc, c'était, oui, c'était une nécessité parce que tourner en Algérie, compte tenu de la liberté avec laquelle nous traitons le sujet, notamment concernant la responsabilité peut-être de l'armée algérienne, ça n'était pas envisageable. Et puis, nous voulions faire une parabole, c'était l'idée d'Étienne Comard, une parabole très universelle. Et donc, à aucun moment, on ne parle de l'Algérie ni de Tibérine. Évidemment, ici en France, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais on a été très exact sur la vie monastique. Mais en même temps, on voulait que ça soit un petit peu intemporel.
C'est à bien aucun sûr... moment, ce n'est explicite.
Non, à aucun moment, vous, et c'est délibéré, à aucun moment, vous n'avez le mot « Algérie » ni le mot Tibérine, voilà. Et c'est délibéré. Nous voulions que on puisse voir ça. Bon, moi, je reviens d'Amérique, là où le film sort au Canada et aux États-Unis. Nous voulions que partout dans le monde, puisque ce film va être regardé dans 50 pays dans le monde. Et c'était le projet au départ avec Xavier Beauvois, c'est de montrer la lumière des frères comme les étoiles dans le ciel. C'est ce qu'il me disait. Donc vraiment un mystère de Pentecôte, d'effusion par rapport à cette histoire qui au départ est tout à fait réduite à justement cette portion d'humanité qui est le petit village de Tibérine en Algérie, avec l'histoire de la colonisation française. Et des gens ont parfois critiqué le fait qu'il n'y avait pas le contexte précis de la colonisation française depuis 1830, mais ça n'est pas le sujet du film.
Sans Oscar aux États-Unis d'ailleurs. Hein.
Oui, absolument.
C'est curieux quand même, non?
Oui, alors...
Henri Quinson, comment l'expliquez-vous?
Moi qui suis américain...
Alors que justement, vous nous dites précisément que ça a été fait pour que ce soit universel. Et on imagine bien que vu la situation que connaissent les chrétiens aujourd'hui dans tous les pays... dont on peut imaginer qu'ils sont concernés, ne pas avoir cette reconnaissance-là outre-Atlantique, c'est quand même...
Oui, c'est dommage. Bon, moi, je suis franco-américain, donc je vais pas faire de l'anti-américanisme primaire. Je suis
non, mais sans être anti-américain. Voilà. Essayez de comprendre.
Je crois, si vous voulez, qu'il est très difficile d'obtenir l'Oscar du film étranger parce que il y a énormément de films. Il y a qu'une seule récompense. Il faut aussi, il y a des raisons commerciales, c'est-à-dire que les Oscars aux États-Unis récompensent généralement des films qui ont déjà eu un certain succès populaire. Et Sony Pictures a décidé de faire sortir le film ou en même temps, à vrai dire, que les Oscars. Donc le film n'a pas bénéficié aux États-Unis d'un succès populaire qui aurait été antérieur aux Oscars. Donc je crois que ça a joué un petit peu en sa défaveur. Sony aussi avait un autre film qui marchait bien et qu'il a défendu finalement beaucoup plus. Et puis après, bon, il y a des phénomènes de lobbying. Enfin, je veux pas non plus. Vous savez, quand on perd un match, il faut aussi être bon perdant. Donc on va pas dire voilà ce qu'ont fait les adversaires. Mais c'est vrai que. Bon,
mais est-ce que les Américains ne se sentent pas concernés parce que tout simplement ils sont loin du monde arabe? Est-ce qu'on peut avoir cette assertion-là?
Écoutez, quand les frères ont été assassinés, j'étais en visite auprès de ma famille à New York et c'est vrai que je me suis bien rendu compte que là-bas, cet événement était passé quasiment inaperçu, puisque ce sont quand même des moines français. Depuis le 11 septembre, par contre, la réceptivité du peuple américain, qui ne compte que moins d'1% de musulmans sur son sol, hein, donc c'est une situation très différente de la France. Le peuple américain est quand même très sensible maintenant à la question de l'islam, mais vu plutôt comme une question d'affaires de politique étrangère, et avec des réactions souvent très négatives et assez en noir et blanc. Donc je pense qu'il y a une certaine difficulté à accueillir le message des frères, qui est lui-même parfois difficile à accueillir ici en France, qui est assez...
Qui est complexe. Hein.
Voilà, qui est très fin, hein, voilà, sur cette question. Mais je pense par contre que les conditions étaient réunies, et sans doute que le film marchera bien, et c'est bien parti pour l'instant aux États-Unis parce que quand même les thématiques du film sont très importantes là-bas.
Henri Quinson, avec nous jusqu'à 8h17.
L'éditorial.
Gérard Leclerc.
Et de la politique, évidemment, avec Gérard, on parle du remaniement dans son édito.
Le président de la République a donc pris les décisions importantes qui conviennent pour mettre la politique étrangère de la France en cohésion avec les révolutions qui secouent le bassin méditerranéen avec une intensité exceptionnelle. C'est en effet une véritable mise en demeure que les pays arabes en révolte font à notre pays à l'heure où ils chassent leurs dirigeants et entreprennent des mutations qui touchent jusqu'à la nature de leur civilisation. Certes, sur ces mutations, il convient toujours d'être prudent, car nous ne savons encore à peu près rien sur la structure des régimes qui vont remplacer les anciennes dictatures. Jusqu'à quel point le désir de liberté et la contagion de l'individualisme moderne vont-ils influer sur les comportements ? Certains analystes ont annoncé très explicitement que ces révolutions étaient post-islamistes, en ce sens qu'elles marquaient le déclin du mouvement de fond qui avait produit une radicalisation de l'islam. On va même jusqu'à dire que la question de l'organisation de la religion musulmane en France est d'ores et déjà affectée par ce grand mouvement de l'histoire et que les craintes exprimées par beaucoup se trouveraient désormais relativisées. À l'heure où Nicolas Sarkozy veut lancer un débat national sur le sujet, ces données fondamentales nous obligeraient à la reconsidérer de fond en comble. Il est vrai qu'à tous égards, nous devons nous mettre en disposition d'accueillir, de comprendre, de réagir à tout ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, il faut se garder de ce que j'ai déjà appelé dans cette chronique, à la suite d'André Malraux, l'illusion lyrique. Tout ne correspondra pas forcément à nos vœux, et il est même possible qu'on assiste à un renouveau d'un nationalisme arabe qui nous posera des problèmes sérieux. C'est à notre capacité de démêler les énigmes nouvelles dont dépend notre proche avenir qui permettra de nous adapter à l'intérieur et à l'extérieur à toutes les sollicitations brutales de l'histoire d'aujourd'hui.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Ce matin, Henri Quinson, conseiller monastique du film Des Hommes et des Dieux, Secret des Hommes, Secret des Dieux, c'est son livre aux éditions Presse de la Renaissance. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont de la Méditerranée, Henri Quinson, depuis que le film est sorti en France.
Bien sûr.
À commencer par ce remaniement qui en constitue l'un des épisodes.
En même temps, dans le film, vous verrez que le point de vue est très en consonance avec ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, j'en avais beaucoup parlé avec Xavier Beauvois. On fait très attention dans le film de ne pas justement stigmatiser les musulmans en général, puisqu'on voit qu'il y a un villageois les villageois qui accueillent évidemment de très bonne grâce et qui tiennent à leurs moines chrétiens, donc des liens fraternels très importants entre êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. En même temps, on fait une distinction avec l'islam politique radical, et à l'intérieur de l'islam politique radical, la branche armée, les groupes islamiques armés en Algérie, et on montre que l'armée algérienne, elle, défend un régime corrompu, c'est l'expression qui est utilisée par Christian de Chergé dans le film. Et j'explique dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur le point de vue d'Alger, que bien sûr l'armée algérienne, le régime algérien a voulu protéger les moines de Tibrine, puisqu'il leur a proposé une protection militaire, qu'il a aussi demandé, puisque les moines ne voulaient pas de cette protection, qu'ils leur rentrent en France. Et que s'ils ont refusé, je l'explique en détail, c'est que Christian de Chergé avait un point de vue qui était qu'il ne partirait que si les Algériens eux-mêmes leur demandaient de partir. Et qu'à ce titre, donc le préfet, le wali de Médéa n'était pas une autorité suffisante, que l'armée n'était pas une autorité suffisante, que le gouvernement n'était pas une autorité survivante. C'est un discours extrêmement subversif et il ne faut pas s'étonner que certains mettent en avant l'hypothèse que les moines aient été enlevés, que ce soit un faux enlèvement ou que ce soit une bavure militaire, parce que, comme on le voit très bien dans le film, il y avait une hostilité quand même par rapport à cet esprit libre, fraternel, égalitaire, qui est celui qui s'empare de la région. Et pour être allé régulièrement en Algérie, je pense que une des grandes difficultés des élites françaises, et la démission de la ministre des Affaires étrangères en est une illustration, c'est qu'ils vont tous passer leurs vacances à Marrakech ou ailleurs. C'est vrai aussi des milieux universitaires, j'ai mal le regret de le dire, et que donc il y a tout un discours convenu sur ces pays qui fait que les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Et personnellement, j'ai toujours pensé que dans les 50 ans qui viennent, une des grandes questions, ce serait la transformation de ces régimes, à la fois sur le plan politique, mais aussi de ces sociétés sur le plan social, et que la question religieuse est un élément, puisque quand même l'islam détermine aussi une anthropologie, une certaine vision de l'homme, mais qu'il faut prendre l'ensemble de ces éléments pour comprendre qu'à la fois vous avez une radicalisation religieuse dans ces pays, qu'on voit très facilement, puisque c'est de ça dont on parle à cause du terrorisme, et que ces personnes-là prennent la parole très facilement, puisqu'ils font peur aux autres, mais que si vous visitez régulièrement ces sociétés, vous vous rendez compte qu'il y a aussi tout un pan de la société, mais qu'on n'entend pas du tout, qui sont portés en fait vers une modernisation assez conforme finalement à ce qu'on peut trouver ici, avec ses risques aussi hein, de nihilisme. Mais vous avez finalement des gens qui vont aller à la mosquée et qui, s'ils vous connaissent très très bien, vous diront qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils y vont parce qu'ils sont obligés.
Par conformisme.
Et par conformisme.
Henri Quinson, donc ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes, c'était prévisible, perceptible, en tout cas vous?
Ah oui, moi
vous en aviez un pressentiment.
J'ai toujours pensé, et je continue de le penser, et la difficulté, comme l'a dit votre chroniqueur, c'est maintenant pour inventer autre chose, parce que en Algérie, par exemple, on a systématiquement éliminé les intellectuels, les hommes politiques et les religieux, y compris musulmans, qui étaient pour une évolution justement vers ce dont nous parlons dans le film, c'est-à-dire des valeurs républicaines, pour le compte aussi, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça, c'est un danger pour toutes les dictatures.
Henri Quinson, vous êtes avec nous encore pendant quelques minutes. Je vous propose d'écouter, de réécouter aussi Michael Lonsdale, parce que lorsqu'il a reçu sa récompense, un César du meilleur second rôle, Frère Luc, hein, c'est lui, vous avez dit que cette personnalité, c'était celle qui vous avait le plus frappé, vous et Xavier Beauvois. Eh bien, Frère Luc était toujours présent. Michael Lonsdale pensait à lui en recevant son César.
Oui, il est là pour moi. C'est vraiment un modèle, un exemple d'une richesse, d'une générosité incroyable. C'est vraiment la vraie vocation chrétienne, c'est ça. Pour moi, c'est un saint homme.
Est-ce que vous êtes particulièrement content d'avoir été récompensé pour ce film, alors que vous eussiez pu être récompensé pour L'Imprécateur, pour tant et tant d'autres films des années 70?
Que ce soit celui-là, parce que c'est pour moi plus profond, ça me marque plus profondément que les autres films que j'ai faits, que j'aime beaucoup. Mais là, celui-là, un message complètement spirituel, profondément, et alors, ça me touche pour d'autres raisons. Ça vous nourrit, et puis voilà, puis ça vous aide à continuer en ayant confiance, oui.
Vous avez souvent interprété les moines et les ecclésiastiques, je crois, presque une dizaine de fois. On pense au souffle-cœur, on pense au nom de la rose. Est-ce que ce personnage-là, c'est un petit peu une synthèse de tous les ecclésiastiques?
C'est celui, pour moi, qui vit la chose la plus profonde. Oui, oui. C'est le personnage le plus ancré dans la foi.
Vous avez interprété avec beaucoup de brio aussi de fiefé scélérat. On pense à Moonraker, mais à La Traque, à L'Imprécateur. Est-ce que avoir interprété, incarné un homme saint, maintenant, est-ce que vous n'avez pas envie de dire, bon, ben, j'ai quand même assez envie de réinterpréter une fiefé crapule maintenant?
Non, ça va, les crapules, j'ai donné. Non, maintenant, allons-y doucement. J'ai dit toujours, je vais arrêter les prêtres, mais j'ai envie d'en faire encore un. Je peux pas m'arrêter.
On ne se refait pas, Michael Lonsdale. Donc, Frère Luc, qui fait la synthèse, en fait, du point de vue spirituel de ce qu'il y a de plus profond, Henri Quinson. Et on peut se poser la question de la façon dont ce film est reçu dans un milieu musulman qui mêle spirituel, politique. Comment c'est reçu, ça?
Bah là, c'est difficile de répondre. Si vous voulez, ce que je peux vous dire, c'est que mes amis musulmans qui ont vu le film, ou mes amis algériens ou marocains, qui ne se définissent pas forcément en termes religieux, ont très très bien reçu le film. C'est-à-dire que les gens ont très bien compris que ce film, c'est l'histoire de l'amitié entre ces moines français chrétiens et avec cet environnement algérien musulman. Et nous avons vécu, si vous voulez, pendant qu'on se battait ici en Suisse contre les minarets, en France contre la burqa, nous étions avec des ouvriers marocains pour la plupart de tradition musulmane. Et nous étions en train de reconstituer un clocher dans le Moyen Atlas au Maroc, avec l'accord du roi du Maroc, avec la participation dans le film de l'armée marocaine. Et nous vivions complètement dans le sillage de Tibirine, c'est-à-dire ce que nous croyons, c'est la rencontre entre les hommes. Voilà. Au-delà des chocs entre les systèmes religieux et politiques.
Merci beaucoup d'être venu en direct ce matin. Henri Quinson, avec Secret des hommes, Secret des dieux, l'aventure humaine et spirituelle du film Des hommes et des dieux, ça continue pour ceux qui écoutent l'antenne à Paris notamment, dans La Voix libre entre 9h et 10h avec Emmanuel Audrin qui a inspiré le documentaire à l'origine du film spécial Des hommes et des dieux ce matin, 8h27. Merci Henri.